Aujourd'hui, je vais vous raconter comment Isabelle a recruté 3 vendeurs trop juniors qui lui ont fait perdre 40 000 euros, 8 mois et sa deuxième levée de fonds. Chaque semaine, je vous raconte l'histoire d'un entrepreneur que j'ai rencontré qui a raté un recrutement. On aborde où ça a planté, combien ça a coûté et comment vous pouvez l'éviter. L'objectif, en quelques semaines, vous saurez reconnaître les erreurs les plus communes de recrutement et les éviter. Alors Isabelle, c'est la fondatrice d'un SaaS B2B et la croissance de son entreprise faisait x2 tous les mois. Et ça, ça lui a permis de faire une très belle première levée de fonds et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontrée. Alors Isabelle, elle décide de recruter ses premiers vendeurs pour l'épauler et donc elle décide de prendre 3 vendeurs. Mais elle ne veut pas trop dépenser sur leur salaire. Et donc, au tarif qu'elle avait imaginé, elle doit donc prendre des juniors. Elle finit par trouver 3 profils qui sont en reconversion et qui sortent d'une école de vente. Ils ne coûtent pas trop cher, ils doivent faire leurs preuves, c'est donc parfait. Elle leur donnera des bonus, ça va donc les stimuler. Alors, le premier mois, aucun des 3 vendeurs n'a fait de vente. Il y a juste Isabelle qui a continué à faire des ventes comme avant, ça a bien fonctionné, mais les vendeurs n'ont pas réussi à en faire. Et donc, elle décide de consacrer plus de son temps à la formation de ses équipes, en se disant qu'elle va réussir à la faire monter en compétences. Le deuxième mois, un des vendeurs démissionne, parce que finalement, il se rend compte qu'après sa reconversion, la vente, c'est quelque chose qui n'est pas pour lui. Et à cause de ça, les 2 autres vendeurs qui sont là ont un moral qui est un petit peu entaché. Le troisième mois, les 2 vendeurs ont réussi à faire 2 contrats qui ont été signés et qui sont assez importants. Isabelle se dit « Alléluia, ils en sont capables, ils sont très motivés, maintenant ils connaissent bien le produit, elle valide donc la période d'essai de chacun. » Et pour les booster, elle décide de prendre un coach sur 2 mois en vente. Le quatrième mois, le deuxième vendeur démissionne. Isabelle essayait de le challenger, de le mentorer, mais ça ne lui plaisait pas vraiment. Et il se disputait de plus en plus avec Isabelle et a donc décidé de partir. Nous sommes le quatrième mois, il reste donc un seul vendeur et quelques mois plus tard, Isabelle est de plus en plus en retard sur son business plan. Le dernier vendeur ne suffit pas à rattraper et pour lancer un recrutement de plus, il va falloir plusieurs mois. Sauf qu'Isabelle, ces plusieurs mois, elle ne les a pas. Malheureusement, elle n'a pas assez de fonds pour continuer comme ça et elle ne peut pas non plus être rentable. Et comme le business plan n'est pas atteint, faire une nouvelle levée de fonds, c'est plutôt complexe. Elle se retourne donc vers ses investisseurs, mais malheureusement, ils n'ont plus assez confiance dans la capacité de son équipe à exécuter pour faire un bridge. Malheureusement, Isabelle est obligée de fermer son entreprise. Alors, quel est le coût de cette erreur? Faisons les comptes. Ici, Isabelle et son équipe ont passé environ 8 heures à payer des salariés pour préparer le recrutement et faire les entretiens. Isabelle a dédié un quart de son temps, et donc aussi de son salaire, à former et accompagner ses vendeurs pour les aider à monter en compétences. Elle a ensuite payé un mois de salaire du premier vendeur avec peu de résultats, puis ensuite 4 mois de salaire pour le deuxième et 8 mois de salaire pour le troisième. En plus de ça, elle a rajouté 2 mois de coaching externalisé qu'elle a payé. Si on chiffre tout ça, ça fait environ 160 euros de salaire payé à recruter au lieu d'exécuter. Ça fait également 28 600 euros de salaire de ses 3 vendeurs, presque 400 heures de son temps sur 8 mois pour former et accompagner les vendeurs, 400 heures qu'elle aurait pu utiliser à faire d'autres choses, ce qui fait environ l'équivalent de 5 800 euros sur son salaire qu'elle a dédié à former ses vendeurs, et ensuite un coaching externalisé qui lui a coûté presque 5 000 euros. Ça fait quasiment 40 000 euros de perdu de sa levée de fonds. Ça fait aussi 8 mois de vente perdue et un quart du temps d'Isabelle qu'elle aurait pu mieux utiliser. Et tout ça cause la mort d'une entreprise qui avait pourtant un produit qui se vendait et que Isabelle arrivait à vendre. Alors, quelles sont les erreurs dans ce recrutement? Dans un recrutement, il y a 3 phases. L'avant, où on définit les objectifs. Le pendant, les entretiens et le processus qui analyse les talents des candidats. Et l'après, où on mesure les KPI de la personne pour valider sa période d'essai. Pour Isabelle, les étapes 1 et 2 ont présenté des défauts. Avant, elle n'a pas défini d'objectifs chiffrés. Pendant, elle n'a pas pu créer un processus qui allait tester ces éléments-là et ces compétences-là chez ses candidats. Et de fait, la 3e étape, la validation des KPI, n'a pas pu être possible. Alors, quelle est la liste des erreurs d'Isabelle? D'abord, Isabelle n'a pas mis d'objectifs chiffrés. Et c'est le problème puisqu'elle n'a pas pu objectiver la qualité et la performance de ses vendeurs. Comme elle n'a pas mis d'objectif, elle ne peut pas savoir si 2 grosses ventes sont d'une bonne performance ou une mauvaise performance. Ce n'est pas possible de l'objectiver. Et donc, elle a validé la période d'essai alors qu'elle n'aurait pas dû. Ensuite, Isabelle à recruter des personnes qui n'avaient pas d'expérience préalable. Ce qui n'est pas forcément un problème si on a un très solide processus d'entretien qui valide le potentiel des personnes. Ensuite, Isabelle n'avait pas de questions d'entretien qui vérifiaient la motivation pour le métier de vendeur. Un vendeur, c'est très sujet à la motivation. Et donc, il faut s'assurer qu'une personne qui est en reconversion est très motivée, et ce, dans la durée, pour pouvoir réussir dans le métier. Et enfin, elle n'a pas validé le potentiel d'entente entre elle et ses vendeurs. Elle avait un des vendeurs qui, notamment, ne voulait pas être mentoré. Et, de fait, ça a créé des enjeux d'entente. Finalement, Isabelle aurait pu rattraper ses erreurs. Mais il aurait fallu prendre une décision difficile et rapidement. Et la plupart des recruteurs ne le font pas, notamment par crainte d'avoir du mal à retrouver quelqu'un. En faisant cela, vous propagez un virus dans votre entreprise, la sous-performance. Un vendeur qui ne réussit pas en génère 3. Parce que implicitement, vous dites haut et fort aux autres, vous pouvez ne pas atteindre vos objectifs, ne pas vous améliorer, et je vous garderai. Et les autres vendeurs se diront, si je peux faire moins bien que lui et rester, pourquoi je m'embêterai à faire mieux ? C'est tout à fait normal. Et comme les vendeurs sont des profils dont la motivation est très influencée par le contexte, vous allez perdre vos vendeurs un par un, même les meilleurs. Alors, quelles solutions vous pouvez mettre en place pour réussir vos recrutements de vendeurs ? Il faut savoir que le recrutement de profils de vente, c'est un des plus difficiles. Et c'est aussi celui qui peut vous coûter le plus cher à votre entreprise. Alors, vous pouvez faire des économies sur tout ce que vous voulez, mais surtout pas sur le recrutement de vos vendeurs. Et d'autant plus si vous êtes au début d'une entreprise. Pour garantir un recrutement de vendeurs, il y a plusieurs pistes. D'abord, bien définir quel profil recruter. Et vous allez le faire en fonction de deux choses. D'abord, la maturité de votre entreprise. Vous n'allez pas prendre un directeur commercial trop tôt dans une entreprise. Et ensuite, de votre produit et de votre marché. Parce qu'un bon vendeur hardware sur du grand compte n'est pas forcément un bon vendeur software pour des restaurateurs. Il faut donc l'adapter. Ensuite, vous pouvez créer des questions d'entretien auxquelles les vendeurs ne sont pas préparés. L'objectif ici, c'est d'analyser leur capacité d'improvisation, leur mentorabilité, leur motivation. Et ces questions-là, comme ils ne s'y attendent pas, ça va les faire sortir de leur script tout préparé. Ensuite, vous pouvez aussi créer des exercices de vente, en général deux, pour les tester sur des capacités réelles de vente et non pas juste sur les réponses aux questions d'entretien. Et enfin, vous pouvez analyser le potentiel d'entente du vendeur avec son N+1 à l'aide d'un test de personnalité par exemple. Si vous êtes en train de faire un recrutement et que vous voulez savoir si vous allez droit dans le mur avec un candidat, vous pouvez utiliser la checklist qu'on vous met en description de cet épisode. Elle recense les red flags d'un vendeur à faible potentiel. On l'a conçue avec les retours d'un ancien head of sales d'une scale-up qui l'a testé sur plus de 200 recrutements. Si vous cochez trop de cases dans cette liste, vous risquez de faire une Isabelle. Alors, faites-vous accompagner dans ce cas-là, notamment par un bon chasseur de tête, pourquoi pas un ancien head of sales ou alors un recruteur sérieux. Merci de nous avoir écoutés. Vous saurez désormais éviter une erreur de recrutement en plus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un apprentissage supplémentaire. Et si vous avez un ami qui a besoin d'éviter cette erreur, n'hésitez pas à lui transférer cet épisode. Et si vous avez besoin d'un avis sur un de vos recrutements, parlons-en, ça se passe en description. À très bientôt.